1901 sur 90, c'est la radio des assos. Une émission proposée par la GLCA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse, avec l'aide précieuse de Radio B.
Chers associatifs, associatives, bonjour. Nous nous retrouvons en ce beau mois de juillet pour la dernière émission de l'année. En plein chassé-croisé des vacanciers, des baignades, apéritifs et barbecues à ne plus en finir. Nous allons donc parler accès à l'alimentation pour tous, puisque c'est l'épicerie solidaire au marché Comté qui vient à nous aujourd'hui avec Marion et Mathilde. Bonjour.
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 Après l'interview du jour, Sandra vous parlera de l'intérêt de définir une stratégie de communication. Et puis pour cette dernière émission, nous terminerons avec quelques dates.
1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour.
Alors Marion et Mathilde, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association en quelques mots ?
Oui, donc l'épicerie solidaire est une association qui a été créée donc en 2000 suite à l'initiative de la ville et de différentes associations partenaires. Et l'idée d'une épicerie solidaire est d'accompagner des personnes en difficulté financière en leur permettant de venir acheter des denrées alimentaires, produits d'hygiène et d'entretien à prix réduit et ainsi constituer une économie pour financer un projet. Mais l'épicerie solidaire, ce n'est pas que cela, car nous proposons aux utilisateurs un certain nombre d'ateliers tournés beaucoup autour de l'alimentation équilibrée, de la nutrition, ainsi que des sorties culturelles et des ateliers axés parentalité.
Alors peut-être, en général, sur ce qui est alimentation, on a l'habitude banque alimentaire, qui sont vraiment, enfin, avec un accès gratuit. Là, il y a quelque chose de l'achat. Alors peut-être en termes de projet, quelle est la différence ?
Alors la différence, en fait, nous sommes complémentaires de ces structures qui sont, pour certains, au conseil d'administration de l'association. L'idée d'une épicerie solidaire, c'est que nous ne sommes ni dans l'urgence, ni dans la grande précarité. Nous nous adressons vraiment à des personnes qui, si on peut dire, qui sont avant de basculer dans cette grande précarité et qui peuvent rencontrer à un moment donné un accident, une facture imprévue. Et l'épicerie solidaire va leur permettre, en faisant des économies sur le poste alimentation, de pouvoir financer soit une dette locative, soit une facture de réparation de voiture ou encore un nouvel achat. Donc il faut savoir que l'utilisateur de l'épicerie solidaire, en achetant, reste acteur de sa consommation, puisque nous sommes vraiment comme une petite supérette avec des rayons achalandés, des produits frais, des fruits et légumes et un petit chariot où les gens peuvent vraiment choisir ce qu'ils veulent et ensuite passer en caisse. Il faut savoir que le fait d'ouvrir son porte-monnaie participe vraiment de la dignité humaine.
Est-ce qu'il y a un objectif de se réapproprier l'acte de consommer ? Enfin, parce qu'on peut très vite être tenté de partout avec plein de publicités, plein de choses à acheter. On est quand même dans une société de consommation, donc avec un budget limité. C'est un des axes de travail de l'épicerie solidaire.
Oui, tout à fait. Nous sommes sur des produits de base, mais où il y a quand même un choix. Donc au niveau produits frais, au niveau viande, poissons congelés, également au niveau des produits d'hygiène, on va être sur vraiment des produits de base permettant une alimentation équilibrée. On va mettre en avant aussi des produits de saison. Et le fait peut-être de limiter, je dirais, en marque, on va permettre de travailler aussi sur le budget et, comme vous le disiez, de se réapproprier cette notion d'être maître de ses achats et maître de son budget.
L'épicerie est ouverte à tous. Comment ça se passe pour pouvoir y accéder ?
Alors, du coup, l'épicerie, elle n'est pas ouverte à tout le monde. C'est sur prescription. Donc, on a des partenaires, que ce soit le conseil départemental, que ce soit les centres sociaux, missions locales, etc. Il y a aussi des comités d'entreprise qui orientent des familles qui traversent une difficulté financière. Et ces dossiers-là sont traités en commission. On a une commission qui siège à l'épicerie tous les 15 jours et qui représente 5 structures et qui valide ou pas la demande en fonction des ressources du foyer et aussi du projet qui est mis en avant.
Voilà, il faut noter que seul le public étudiant peut accéder en prenant directement rendez-vous à l'épicerie solidaire, puisqu'ils n'ont pas, sur Bourg-en-Bresse, de travailleurs sociaux qui leur est dédié.
D'accord. Et les denrées alimentaires et d'hygiène, comment vous les récupérez ?
Alors, nous avons deux sources d'approvisionnement. Une source par des dons, qui représente 70% des produits que nous possédons. Et ensuite, 30% que nous achetons. Donc, les dons, ce sont essentiellement auprès de la banque alimentaire, mais également des ramasses que nous effectuons auprès de grandes surfaces partenaires et auprès de certaines boulangeries également de la ville de Bourg-en-Bresse. Et ensuite, nous achetons tout ce que nous n'avons pas pu obtenir par la banque alimentaire, essentiellement certains fruits et légumes, de l'épicerie sèche, de la viande et également du poisson congelé et des produits laitiers.
En tout début de l'émission, vous avez parlé qu'au-delà de l'épicerie, il y avait d'autres actions. Vous avez parlé alimentation. Donc l'enjeu de l'épicerie aussi, c'est de se réapproprier son alimentation.
Alors effectivement, on a tout un volet accompagnement social qui est proposé et mis en place à l'épicerie. C'est vrai que comme on est une épicerie et qu'on vend de l'alimentation, bah, notre outil, et puis tant mieux, c'est bien parce que c'est universel, c'est l'alimentation. Donc on a des ateliers culinaires, alors que ce soit pour les adultes, les parents et leurs enfants, avec les jeunes de la mission locale aussi. À travers ces ateliers, alors on n'est pas sur des ateliers courte cuisine. C'est vraiment des rencontres conviviales autour de l'alimentation. Alors, on aborde de manière très globale les principes de l'alimentation équilibrée, puisqu'on est sur des questions de santé. Mais ça reste global. Au-delà de ça, il y a quand même le lien qui est mis en avant. Il y a le lien avec les autres personnes, mais aussi le lien avec des professionnels qu'on invite très régulièrement autour de tables d'hôtes, rencontrer les familles, répondre à des questions que ce soit d'information, de prévention, de droit, etc.
Donc l'épicerie solidaire, pour les bénéficiaires, c'est aussi un lieu social, de rencontre, de convivialité.
Oui, c'est tout à fait, c'est la plus-value hein, de l'épicerie solidaire, puisqu'il faut bien voir également que pendant les jours d'ouverture, nous sommes ouverts trois fois par semaine, il y a un accueil où les personnes, suite à leurs achats, peuvent s'arrêter si bien sûr elles en ont le temps et l'envie, ou elles peuvent échanger donc avec Mathilde, accompagnée d'une bénévole et de l'apprenti, pour justement échanger, créer du lien, poser parfois certaines choses, et puis pouvoir s'inscrire sur les ateliers que nous proposons, et également pouvoir avoir des informations, puisque pendant les temps d'accueil, nous avons des partenaires, essentiellement autour de la santé, qui viennent pendant ces temps d'accueil pour pouvoir échanger, apporter de l'information. Et par la suite, du coup, les personnes connaissant ces acteurs-là, ça va débloquer des choses pour certains. Ils vont pouvoir, du coup, prendre des rendez-vous pour aussi avoir des suivis plus personnalisés. Donc, on est vraiment dans notre mission de médiation, médiation santé, mais aussi médiation culturelle. Et c'est vraiment important, c'est vraiment notre mission d'être tremplin vers ces autres structures, essentiellement associatives, mais également autres, où les personnes pourront se rendre par la suite, une fois que l'accès ou pas sera fini à l'épicerie solidaire.
Et donc un troisième axe dont vous avez parlé, des sorties culturelles aussi ?
Oui, tout à fait. Donc dans le cadre du partenariat avec le CCAS, la tannerie et le théâtre, nous pouvons proposer des sorties culturelles, donc en accès collectif, où les personnes vont être accompagnées, elles ne vont pas aller seules, on n'est pas sur de la consommation. L'idée, c'est vraiment d'expliquer en amont le spectacle qu'on va pouvoir aller voir. C'est aussi rencontrer les artistes. Il y a parfois des tables d'hôtes qui sont proposées. Et après, une fois le spectacle, je dirais, terminé, c'est aussi pouvoir échanger. Nous avons également une convention avec le cinémateur de la ville de Bourg qui nous permet, avec un certain prix préférentiel, de proposer des films dans le cadre de la programmation du cinémateur. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment de pouvoir désacraliser un petit peu la culture, les lieux culturels qui peuvent aussi parfois impressionner. Et notre mission, c'est aussi vraiment rendre tous ces lieux accessibles.
Je suis resté qu'un enfant, trop grandi, trop vite.
Nous sommes de retour avec l'épicerie solidaire, avec Marion et Mathilde, et nous parlons consommation.
1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour.
Un petit mot sur la musique qu'on vient d'entendre ?
Oui, bah c'est vrai qu'en plein mois de juillet, ça fait du bien voilà, de parler du soleil, c'est agréable. En plus, c'est vrai que l'épicerie solidaire, au-delà d'être un lieu de vente, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un lieu de création de liens sociaux, de reprise de confiance en soi. Donc c'est un lieu chaleureux qui permet, voilà, de, comme je disais, de poser des choses qui parfois peuvent être douloureuses pour les personnes, mais ça permet aussi voilà, d'avoir un lieu où les gens peuvent se ressourcer, un lieu chaleureux.
Donc un lieu chaleureux aussi parce qu'il y a des bénévoles. On peut être bénévole à l'épicerie solidaire parce qu'il y a des professionnels, il y a des bénévoles. Comment ça marche ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc l'association, en fait, nous sommes 3 salariés permanentes, une trentaine de bénévoles et également nous portons un atelier chantier d'insertion. Et il faut noter que sans l'équipe de bénévoles, nous ne pourrions pas de toute façon fonctionner puisqu'ils sont là quasi au quotidien à nos côtés pour œuvrer à nos côtés et remplir un certain nombre de missions. Que ce soit voilà, sur l'approvisionnement des denrées alimentaires, sur la tenue de caisse quand le magasin est ouvert, et bien sûr toutes les fonctions qu'on retrouve au sein d'une association au niveau du bureau et au niveau du conseil d'administration. Également, certains bénévoles qui vont apporter un soutien aux salariés d'insertion en leur proposant des cours de remise à niveau de français, de maths, de code et également de conduite.
Donc, est-ce qu'on peut faire un appel, auditrice, auditeur voilà, vous avez envie de donner un peu de temps à l'épicerie solidaire, que ce soit sur l'épicerie en tant que telle ou sur des cours ou dans la direction de l'association.
Oui, oui, voilà, tout à fait. Hésiter. Tout à fait, donc il ne faut pas hésiter voilà, à prendre contact avec nous. C'est vrai qu'on est en recherche hein, sur des postes comme la caisse, par exemple, ou encore sur la communication. On sait que c'est important de travailler sur la communication. Donc voilà, c'est des postes où en effet, des compétences en plus seraient le bienvenu.
Et vous avez parlé donc du coup chantier d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, expliquer comment ça fonctionne ?
Oui, donc depuis la création de l'épicerie solidaire, il y a toujours eu des personnes, alors ça ne s'appelait pas encore CDD d'insertion, ça a eu différents noms hein, tout au long de ces 19 années. Donc en effet, l'épicerie solidaire porte un atelier chantier d'insertion. Nous avons une convention avec l'État hein, qui nous permet de salarier jusqu'à 9 personnes. Ce sont des personnes voilà, qui vont être, on va dire, éloignées de l'emploi pour X raisons, qui vont rencontrer des freins pour un retour à l'emploi dans une structure classique. Et nous, notre mission, ça va être de les accompagner. C'est vraiment une mission d'accompagnement socio-professionnel durant maximum 2 ans. C'est la durée de l'agrément qui est donnée par Pôle emploi. Et j'insiste, hein, c'est vraiment un travail, c'est pas de l'occupationnel, puisque les salariés vont vraiment travailler pour aller récupérer les denrées alimentaires, trier voilà, les denrées alimentaires, les étiqueter, les mettre en rayon, tenir la caisse, l'entretien des locaux. C'est vraiment toutes les missions qu'on pourrait retrouver dans une moyenne surface.
En tout cas, ça fait beaucoup de projets, des projets hyper variés, hyper diversifiés. On n'a pas parlé inclusion numérique aussi ?
Oui, donc ça, c'est un nouveau projet qu'on a démarré sur fin 2018. Donc, nous proposons et aux salariés en insertion et aux utilisateurs de pouvoir acquérir un ordinateur, un outil informatique à prix réduit. Nous, pour cela, nous avons un partenariat avec Micronov, qui est une entreprise d'insertion sur Bourg-en-Bresse. Et nous pouvons voilà, leur faire bénéficier d'un outil informatique complet à prix réduit. Et nous proposons également un accompagnement, alors qui est de deux sortes. C'est un accompagnement plutôt individuel qui va être fait par une bénévole pour pouvoir voilà, répondre à certaines questions sur comment je fais pour faire ma demande de carte, par exemple Sécu, ou une demande de passeport. Et ensuite, un accompagnement plus collectif sur comment surfer en sécurité sans mettre en danger mes coordonnées bancaires, mais aussi mes coordonnées personnelles sur un certain nombre de sites, puisqu'on le sait que voilà, l'accès aux droits se fait de plus en plus de manière dématérialisée. Et il est important qu'on ne laisse pas un certain nombre de personnes sur le bord de la route.
Et on en parlait pendant la pause, on avait parlé de l'accompagnement et vous parliez que vous faisiez aussi de l'accompagnement à la parentalité.
Alors, depuis le début, on fait cet accompagnement-là. Sur l'année 2018, c'est un accompagnement qu'on a développé. Alors, c'est des ateliers qui passent à la fois à travers l'outil alimentaire, hein, sous forme de goûter, sous forme d'ateliers cuisine sur des thématiques très ciblées et choisies par les parents, hein, comme faire manger des fruits et des légumes à son enfant sans que parfois ça devienne conflictuel à la maison. Mais aussi après sous la forme culturelle, hein, parce qu'on organise des sorties cinéma, comme on a évoqué tout à l'heure, ou des sorties culturelles en dehors, hein, que ce soit au théâtre ou à la tannerie. Pour les familles, on choisit principalement des spectacles qui sont familiaux. C'est vrai que l'accompagnement à la parentalité, c'est un axe qui s'est développé ces derniers mois et qui est important parce qu'on a majoritairement des familles qui sont accueillies à l'épicerie. Et on perçoit souvent, hein, des inquiétudes des parents. Il y a souvent des choses qui sont déposées sur les temps d'accueil, hein, que ce soit sur des thématiques très diverses. Et ce que nous, on peut apporter, c'est vraiment de pouvoir conforter le positionnement des familles par rapport à leurs, notamment des parents par rapport à leurs enfants, et de leur permettre aussi un temps ensemble, ce qui n'est pas toujours évident parce que au quotidien, on a tous nos emplois du temps. On n'a pas forcément, certaines familles n'ont pas les moyens de pouvoir inscrire leur enfant au centre de loisirs. Donc ça permet aussi d'offrir un temps ensemble.
Une question écologie, on parle beaucoup consommation bio, consommation locale. A priori, c'est quand même des prix qui sont des denrées qui sont plus chères que les autres. Est-ce qu'il y a une vraie discrimination du coup dans l'accès à ces produits-là pour les personnes un peu plus en difficulté au niveau budget? Et est-ce que vous arrivez à travailler sur le sujet ou aujourd'hui il y a quand même cet écart-là?
Alors tout à fait. Au niveau du bio, nous avons développé, une gamme de produits. Grâce notamment au GESRA, donc le GESRA c'est le groupement des épiceries sociales, hein, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui depuis très longtemps travaille aussi sur cette thématique, sur l'accès à l'alimentation de qualité. Donc ils ont une plateforme en fait où nous pouvons commander des produits qui sont pour certains bio, donc nous les proposons ensuite à la vente auprès des utilisateurs. Et puis nous avons développé aussi une gamme vrac. Et puis il faut savoir que le GESRA a donc un partenariat avec Biocoop, et nous avons pu, au mois de mai, nous avons pu collecter au sein des deux magasins Biocoop de Bourg-en-Bresse des denrées alimentaires, donc bio, et qui sont après proposées à la vente aux utilisateurs. Au niveau des prix, il y aura une petite différence, mais que nous on souhaite minime pour que on puisse proposer vraiment une gamme la plus variée possible aux utilisateurs et pour éviter justement, comme vous le disiez, cette discrimination.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la suite, dans l'avenir, pour l'association?
Alors pour la suite, qu'on soit, je dirais, toujours pleine d'idées. C'est vrai qu'on n'en manque pas, hein. On en a très, très régulièrement pour rencontrer de nouveaux partenaires, pour proposer de nouveaux ateliers aux utilisateurs, même si la vocation de l'épicerie est de rester, je dirais, vraiment en lien avec ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire la parentalité, l'alimentation, la culture. Donc nous n'irons pas proposer des ateliers qui existent par ailleurs, mais déjà sur cette thématique-là, nous rencontrons assez régulièrement des nouveaux partenaires et avec lesquels nous pouvons construire sur un moyen long terme de nouveaux projets. Donc c'est ça, c'est rester toujours en renouvellement continuel, mais tout en restant sur notre socle. Et puis bien sûr, ma fonction de directrice fait que je suis obligée de parler des finances et qu'il nous faut conserver, en tout cas continuer à prouver notre plus et tout ce qu'on apporte aux utilisateurs pour pouvoir défendre les financements que nous avons actuellement et qu'ils se poursuivent sur les années prochaines et pourquoi pas en avoir de nouveaux si possible.
Donc c'est l'heure de mettre un point final à cette interview. Merci d'être venu jusqu'à nous. Si on souhaite plus d'informations, on vous trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux?
Alors pas les réseaux sociaux, mais par contre, oui, nous avons un site Internet, donc www.aumarchécomté.fr. Et puis voilà, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez par la suite nous contacter.
Eh bien, merci à vous d'être venus jusqu'à nous.
Merci beaucoup.
1901 sur 90, sur Radio B, l'instant formation. Aujourd'hui, je vais vous parler stratégie de communication. Qu'est-ce qu'une stratégie de communication ? C'est un processus qui permet de prendre des décisions déterminant la communication de votre association. Définir une stratégie de communication est-il vraiment indispensable ? Ce travail vous permet surtout de vous poser les bonnes questions afin d'adopter une communication qui répond aux besoins de votre association. Je dirais donc que c'est vivement conseillé. En fonction de votre projet et de la taille de votre structure, cette démarche ne vous prendra pas forcément beaucoup de temps et apportera de la cohérence à votre communication et donc une image plus visible de votre structure et de ses activités. Je vais vous présenter rapidement les points clés de la démarche. Vous devez tout d'abord vous pencher sur les éventuelles forces et faiblesses qui peuvent avoir un impact sur votre communication. Elles peuvent aussi bien venir de votre association, par exemple un manque de temps à consacrer à la communication, ou bien de votre environnement. Cette première étape dite diagnostic permet de connaître ce que vous pourrez mettre en avant dans votre communication et au contraire les points sur lesquels vous devez être vigilant. Dans un deuxième temps, il faut formuler un ou des objectifs pour votre communication. Souhaitez-vous être davantage connu par le grand public ? Changer votre image ? Toucher de nouveaux bénévoles par votre communication ? Cette étape est importante car elle donne le cap à tout votre travail. Ensuite, c'est la définition des cibles, c'est-à-dire à qui souhaitez-vous vous adresser ? Le grand public dans sa globalité ou plus précisément une catégorie de personnes comme les jeunes ou les passionnés d'un domaine, les institutions, la presse, les associations, c'est à vous de le définir. Attention, ayez bien en tête que vos cibles de communication ne sont pas forcément les mêmes que les publics que vous recevez au sein de votre association. Il existe les cibles relais, ce sont les personnes qui peuvent servir d'intermédiaires et relayer vos informations. C'est le cas des journalistes par exemple. Cette étape terminée, on attaque la réflexion sur le message. Que veut-on faire passer à travers sa communication ? Quelle est l'image que vous voulez renvoyer ? Si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de votre association, qu'aimeriez-vous que ce soit ? Maintenant que le travail de fond est effectué, il s'agit de passer au plan d'action. Quelle action pouvez-vous mettre en place pour toucher les cibles que vous avez définies ? Il faut aussi bien penser aux médias, comme la radio, la presse, l'affichage et bien sûr Internet, mais aussi aux actions événementielles, à la distribution de tracts, etc. Ces actions sont à définir en fonction de votre budget et de l'impact qu'elles auront sur vos cibles. Devez-vous faire ou améliorer votre site Internet, vos réseaux sociaux, votre plaquette de présentation de votre structure ? Tout cela est à réfléchir. Une fois toutes ces actions définies, il est bien de les planifier dans le temps. Avec un tableau, calendrier, priorisez vos actions et mettez l'heure des délais raisonnables. Une démarche de communication prend du temps et c'est normal. Pour terminer, il faut ensuite évaluer votre communication à l'aide d'indicateurs. Ce peut être à l'aide de statistiques de votre site internet et des réseaux sociaux, à l'évolution du nombre de bénévoles, d'adhérents, du chiffre d'affaires. Tout dépend des objectifs que vous vous êtes fixés et ce sur quoi vous avez communiqué. N'hésitez pas à contacter la GLCA si vous souhaitez de l'aide dans votre communication. Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. 1901 sur 90, sur Radio B. L'agenda de la Maison des Assos.
Coopérative de jeunesse et de services, si vous avez des petits travaux à faire, n'hésitez pas à faire appel à la CJS de Bourg-en-Bresse. En octobre, les formations sur les bénévoles reprennent sur tout le territoire de l'Ain. Et pour commencer, ce sera la formation « Construire son projet associatif » à Bourg-en-Bresse, à la GLCA, le 3 octobre. Et puis, vous le savez depuis quelques émissions maintenant, impact du numérique sur la vie associative, comment animer son équipe à distance, comment organiser le travail, quels outils utiliser, si ces questions vous intéressent. 3 jours de formation pour bénévoles et salariés associatifs seront proposés fin octobre, début novembre. C'est entièrement pris en charge. Et puis je termine cette dernière émission par des merci. Merci à toutes les auditrices et auditeurs pour nous avoir supporté toute cette saison. Merci à toutes les associations qui sont venues nous faire partager leurs projets riches et solidaires. Merci aux équipes de Radio B et en particulier Pauline pour nous avoir accueillis, enregistrés, réalisés et adapté son emploi du temps à nos péripéties. Et puis un big up qui n'est pas écrit sur ma feuille à toi Sandra pour te dire que ça a été un plaisir d'animer cette émission toute cette année. Rendez-vous en octobre.
/1901/90, la radio des assos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain sur 90FM, les ondes de Radio B, ou en podcast sur le site internet radio-b.fr à la rubrique 1901 sur 90, où vous retrouverez toutes nos infos. À bientôt.